RFI, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Nous sommes dans la région du sud-ouest au Cameroun pour débuter ce journal. Là-bas, les séparatistes imposent localement des règles strictes aux habitants, des taxes notamment pour permettre d'enterrer les défunts. Témoignage dans un instant. Les Kinois en manque d'électricité, les délestages sont monnaie courante dans la capitale congolaise. Certains commerçants s'en remettent ainsi à des groupes électrogènes. La vétusté du réseau est notamment pointée du doigt. La RDC que vont quitter les soldats de la SAMI DRC. Quand? On ne sait pas encore. Comment? Les modalités ont été négociées avec le M23. À quel prix? C'est l'une des principales interrogations, mais le groupe armé entend bien faire payer la communauté d'Afrique australe. Nouvelle tentative diplomatique de sauver l'accord de paix au Soudan du Sud. Cette fois, ce sont deux membres du groupe des sages de l'Union africaine qui font le déplacement à Djouba. Et puis, le dossier de ce journal à l'occasion d'une sortie cinéma en France. Fanon, qui retrace surtout le passage du psychiatre martiniquais en Algérie lors de la guerre pour l'indépendance. Au Cameroun, c'est une des réalités de la crise dans les deux régions anglophones. Là où les groupes armés sont actifs, les habitants sont contraints de payer un droit de passage pour enterrer leurs défunts. Un fardeau supplémentaire dont les familles essaient de s'acquitter tant bien que mal pour respecter les traditions. Amélie Tulé s'est rendue sur place à Boya, la capitale de la région du Sud-Ouest. Elle y a recueilli le témoignage d'un habitant.
Sur son téléphone, Wally écoute le message d'un proche. Il organise les funérailles de son grand frère, Divine, mais pour ramener le corps au village, il faut négocier avec les séparatistes.
Quand ils savent que vous venez de la ville, ils prélèvent un certain montant avant de vous laisser entrer. Ils le font même aux gens du gouvernement, de l'administration. La nuit, avant l'arrivée du corps, il faut envoyer quelqu'un donner l'argent, le riz ou les vaches aux boys. Là, vos invités, votre famille, peuvent venir pour les funérailles.
Pour enterrer sa mère l'an passé, la famille de Wally a dû payer 300 000 francs. Pour son frère, le montant et la date ne sont pas encore fixés.
Pourquoi devrais-je payer pour ramener mon frère chez lui? Est-ce normal? C'est juste que je ne peux pas affronter ces gens. Je me sens frustré et impuissant.
Mais enterrer son frère dans un cimetière à Boya lui paraît impossible.
C'est ainsi que nos parents ont fait. Nous devons faire pareil. Quand le corps arrive près de la maison, on se met à appeler le défunt en lui disant « Viens, viens, nous rentrons. Viens, tes proches t'attendent. »
To your own place, your people are waiting for you. Come back. So we believe that.
Nous croyons que l'âme de la personne nous entend et nous suit, et qu'elle pourra reposer en paix.
And everything is going to be peaceful.
Sans la paix dans notre pays, pas de paix dans nos cœurs et nos familles, conclut avec émotion Wally en regardant une photo de son frère. Amélie Tulé de retour de Boya, RFI.
RFI 7h33 à Kinshasa, c'est une situation vécue par les habitants de beaucoup de grandes villes africaines où coupures et délestages sont parfois quotidiens. La BAD, la Banque africaine de développement, assure que près de 600 millions d'Africains vivent dans la précarité énergétique. Illustration donc ce mercredi à Kinshasa, la ville compte déjà près de 17 millions d'habitants et chacun ne dispose pas toujours d'un accès facile à l'électricité. Le reportage de Pauline Azidi.
En cette fin de matinée, la commune de Lingwala, au centre de Kinshasa, vibre au son des motos, des klaxons, mais aussi des groupes électrogènes postés devant les différents commerces, comme celui de Théophile.
Je vois que devant votre magasin, qui fait de l'impression, en fait, vous avez votre générateur qui tourne.
Oui, là, les générateurs, là, manquerait ça. On ne peut pas parler parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et c'est pour cela que notre patron est acheté les générateurs pour nous faciliter le travail.
Même bruit de générateur au bar de Georges. Pour lui, les coupures régulières s'expliquent par la vétusté du réseau.
Parce qu'il n'y a pas de courant ici.
Il y a souvent des coupures ici?
Plusieurs fois. Dans tous les secteurs, il n'y a pas de nouveaux câbles. Tout ça, c'est les anciens. Ça ne marche pas.
Des coupures qui agacent Sylvie, l'une de ses clientes.
On est déjà habitué de rester dans les noirs à Kinshasa. Donc s'il y a des courants aujourd'hui, on va faire une semaine sans courant et deux jours sans courant, c'est toujours comme ça. Comme les gars, mon téléphone est fermé parce qu'il n'y avait pas moyen que je charge. Je ne vais pas surcharger la nuit et à 6 heures, c'est déjà parti.
Rebecca, une autre quinoise, se dit plutôt chanceuse au niveau de la fourniture électrique. Dans son quartier, confie-t-elle, il y a du courant au moins une fois par jour. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC que quitteront prochainement les soldats de la force régionale de la SADC déployée dans l'Est. Un an après la signature de l'accord établissant son statut dans le pays, la mission de la SAMIDRC va donc se terminer. On ne sait pas encore quand, mais on sait où. À Goma, aux mains du M23, avec qui les représentants de la force régionale ont conclu un accord. Le groupe armé s'engage à faciliter le départ des troupes avec armes et équipements via l'aéroport international de la ville. Mais alors avec quel déploiement et à quel prix? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Le troupe de la SADC refuse un retrait par la frontière rwandaise, confirme plusieurs sources diplomatiques. Cette position vise à éviter une nouvelle humiliation. Le souvenir des images montrant des membres européens d'une société militaire privée en soutien au FRDC, contraints de traverser la frontière Goma-Gisenyi, le main en l'air, reste vif, ajoutent les mêmes sources. Le départ par l'aéroport international de Goma est donc devenu un impératif, même si cela implique un coût. Ce coût, c'est celui de la réhabilitation des infrastructures. La FCM23 exige une implication de la SADC dans les travaux, notamment les déminages, l'assainissement du site, ainsi que la remise en état de la piste de la tour de contrôle. L'accord ne précise pas qui en financera l'exécution, mais pour la FCM23, la charge revient clairement à la SADC. Le texte prévoit également que les troupes répartiront avec leurs équipements, composés essentiellement, selon les informations des RFI, d'armes légères et de blindés légers transportables par avion. Aucun calendrier n'a été communiqué, mais les étapes du retrait sont arrêtées. Avant cet accord, les militaires de la SADC étaient isolés, étroitement surveillés et considérés comme des vaincus par la FCM23. Selon un rapport des Nations Unies consulté par RFI, la MONUSCO a assuré pendant 15 jours l'approvisionnement en vivres pour environ 4500 soldats.
Patient Ligodi et puis RDC encore et la réaction hier soir de la première ministre Judith Suminois. Elle exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays après la mort d'un policier, le brigadier Fiston Kabeya, embarqué par l'escorte de la chef du gouvernement après une altercation verbale mardi dernier. Il est mort dimanche, 2 jours après avoir été sorti d'un parquet militaire de Kinshasa pour des soins à l'hôpital. Hervé Patrick Opianga, ancien ministre gabonais des Mines, a saisi la Commission africaine des droits de l'homme pour faire cesser, disent ses avocats, les violentes attaques de l'État contre lui. Il est recherché dans son pays depuis novembre dernier pour des soupçons d'inceste sur sa fille. Ses proches le disent victime de harcèlement politique depuis qu'il a choisi de militer pour le non à l'époque du référendum sur la nouvelle constitution, alors que le texte était porté par le général Brice Oligui Nguema. Plusieurs hauts responsables africains à la rescousse de l'accord de paix de 2018 au Soudan du Sud. Voilà une semaine que le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces du président Salva Kiir. Et après la visite la semaine dernière à Djouba de l'ancien premier ministre kényan Raila Odinga, c'est au tour de 2 membres du groupe des sages de l'Union africaine d'y faire le déplacement. Domitien Ndayizeze, ancien président du Burundi, et Effie Ouar, juge kényane à la retraite, mènent une mission de 5 jours dans la capitale. La capitale où l'on retrouve notre correspondante Florence Mietto.
La médiation de l'Union africaine parviendra-t-elle à briser le blocage politique en cours à Djouba? C'est l'espoir de Joram Biswaro, ambassadeur de l'Union africaine au Soudan du Sud. Joint par RFI, il affirme que la visite du groupe des sages est, je cite, « une mission de solidarité avec le peuple du Soudan du Sud pour voir comment la crise peut être désamorcée ». La tâche de la délégation de l'Union africaine s'avère difficile. Vendredi 28 mars, Raila Odinga n'avait en effet pas eu la permission de rencontrer Riek Machar. L'ambassadeur Joram Biswaro explique que l'intention du groupe des sages est bel et bien de, je cite, « s'adresser à tout le monde, au président, au premier vice-président, aux autres vice-présidents et partis politiques, ainsi qu'aux églises et à la société civile, afin que le Soudan du Sud émerge de cette crise ». Créé en 2007, le groupe des sages a pour but d'appuyer les efforts du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits. Conseil paix et sécurité qui a appelé hier à la libération immédiate et sans condition du vice-président Riek Machar. Florence Mietto, Djouba, RFI.
En Guinée, on connaît la date du référendum sur une nouvelle constitution. Ce sera le dimanche 21 septembre prochain, échéance fixée par la junte au pouvoir. Et annoncée ce mardi soir à la télévision publique, les militaires qui voient cette consultation comme une première étape devant aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée où les réactions continuent de pleuvoir après une autre annonce, celle de la libération de Moussa Dadis Camara, gracié par le général Mamadi Doumbouya pour raison de santé. L'an dernier, dernier. Dadis avait pourtant été condamné à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité dans son rôle joué dans le massacre du 28 septembre 2009. Pour beaucoup de partis politiques, c'est une décision qui met en péril la lutte contre l'impunité dans le pays. Sidi Yansani.
Un déni de justice, un stratagème politico-ethnique, un décret illégal. Si une partie de la scène politique guinéenne qualifie la grâce accordée à Dadis d'acte humanitaire et de geste de réconciliation, une autre s'étonne de cette décision qui va à rebours de l'engagement pris par le général Mamadi Doumbouya au lendemain de son coup d'État, à savoir que la justice sera la boussole de la transition. Mokhtar Kalissa, responsable à l'UFR, dont le président Sidya Touré a subi les violences de 2009, estime qu'il aurait plutôt fallu gracier les auteurs de petits délits en cette fin de Ramadan.
Les voleurs de téléphones, de moutons, des bœufs, ils sont nombreux dans nos différentes prisons. Mais prendre la grâce présidentielle, un beau matin, quelqu'un qui devrait purger plus de 20 années de prison et qui n'a même pas fait une année, donnant la chance à la justice de justifier ce qui est justifiable. C'est important.
Pour le modèle, parti de l'opposant Aliou Ba, condamné en début d'année pour offense au chef de l'État, cette grâce présente un paradoxe troublant. Souleymane Kourouma.
Nous assistons clairement à un renversement total des valeurs qui devraient tous nous interpeller. D'un côté, nous voyons la grâce accordée à un individu initialement condamné pour crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, nous assistons à la condamnation d'un homme dont le seul tort d'avoir cherché à éveiller les consciences et à sensibiliser nos concitoyens.
Les détracteurs craignent que cette décision enracine l'impunité dans le pays et mette en danger toute la population guinéenne.
Et puis le dossier de ce journal consacré à la sortie ce mercredi dans les salles de cinéma françaises du film Fanon réalisé par Jean-Claude Barny. Son objectif, mettre en lumière cette grande figure de la lutte anticoloniale. Un biopic qui se concentre surtout sur le travail de Frantz Fanon à l'hôpital de Blida en pleine guerre d'indépendance algérienne. Elisabeth Le Quéré a pu voir le film.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Il a transformé notre regard sur le racisme et la colonisation. En 1953, Frantz Fanon, un jeune psychiatre martiniquais, arrive à l'hôpital de Blida. Sa couleur de peau et ses méthodes novatrices lui valent l'hostilité de sa hiérarchie, mais l'admiration de ses collègues arabes et de leur famille. Désentraver les fous, c'est du jamais vu. Dans l'Algérie des années 50, théâtre d'une guerre de libération sans pitié.
L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat.
Jean-Claude Barny filme la genèse d'un intellectuel et de son œuvre majeure, Les damnés de la terre, mais aussi son engagement politique auprès du FLN. Parfois étouffé sous le poids de la reconstitution historique, le film n'en est pas moins nécessaire, car il donne à entendre l'une des voix les plus vibrantes de la pensée anticolonialiste et antiraciste, une voix qui résonne aujourd'hui bien au-delà de son contexte historique.
Le réalisateur de Fanon, Jean-Claude Barny, qui explique en quoi l'Algérie de la guerre d'indépendance a profondément bouleversé la vie et l'œuvre de Frantz Fanon.
Ce qu'il trouve, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'un peuple peut se défaire de ses chaînes. Et cet espoir-là, c'est le monde. C'est moi, en tant que Guadeloupéen, c'est nous tous, en tant que femmes, en tant embués dans une société qui ne nous entend pas. C'est, ils voient, l'Algérie symbolise l'espoir de se défaire de tout ce qu'on veut nous matérialiser, nous martyriser. C'est l'espoir. Il radiographie en fait compte que l'homme, l'être humain, a les moyens de se soulever et puis non pas que par la violence, aussi par la psyché, par l'intellect, par la psychologie. Il se défait vraiment de toutes les situations dans lesquelles nous on a reçu depuis qu'on est enfant pour essayer de fonder et de retrouver un être nouveau, un homme nouveau. Celui qui s'est défait de toutes les aberrations que l'éducation, le système, l'économie, le capitalisme, la société nous a éduqués et inculqués.
Jean-Claude Barny, réalisateur de Fanon, qui sort dans les salles françaises aujourd'hui. Il était au micro d'Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI. C'est elle qui signe le dossier de ce journal. Vous le retrouvez sur l'application RFI Pure Radio. Tout de suite, la suite d'RFI Matin.